Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Voici le premier épisode de ma série de 5 podcasts consacrés à l'année 1964. Cette année-là, le groupe anglais de la décennie, les Beatles, débarque pour son premier concert parisien. Un grand homme entre au Panthéon, Jean Moulin. Un drame sur un chantier ouvrier en plein Paris qui fait 15 morts. Le premier salon de l'agriculture qui ouvre ses portes. Et les flics ont désormais des alcotestes.
1964, On de la raconte sur Europe 1.
Le 14 janvier 1964, quatre jeunes Anglais dans le vent foulent pour la première fois le sol français. Ils forment le groupe dont tout le monde parle, les Beatles. Paris les attendait depuis 2 ans.
On parle beaucoup des Beatles, on parle aussi beaucoup des goûts que vous avez. Bon, alors, séparément, John, qu'est-ce que vous préférez dans la vie?
Les chanteurs, Carl Perkins, Chuck Berry, etc. Benny King, The Shirelles, Little Richard. Les acteurs, Marlon Brando, and Tom, Harry and Bill. Ils n'aiment pas le jazz traditionnel.
Paul, qu'est-ce que vous préférez?
Jim, Ray Charles, Little Richard, Brigitte Bardot. Écrire des chansons.
Écrire des chansons. George, qu'est-ce que vous aimez, vous?
Le Hitchcock. La TV.
Ringo is in Liverpool.
Ringo est à Liverpool.
The fog. Yeah. The weather.
À cause du brouillard et du vent.
Comes tomorrow.
Il vient demain.
With his drums.
Mademoiselle, qu'est-ce que c'est pour vous les Beatles?
Les Beatles, pour moi, c'est un nouveau groupe que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que les Beatles sont terribles, je les attends avec impatience. Ma correspondante me parle beaucoup dans ses lettres, je trouve qu'ils sont formidables.
Ils sont formidables, quoi.
Vous habitez loin d'ici?
Non, juste à côté, là.
Et vous?
Moi, j'habite à Aulnay-sous-Bois.
Et vous êtes venu spécialement pour les Beatles?
Oui, c'est vrai.
Combien vous êtes là environ, d'après vous?
Une centaine, il y a beaucoup de garçons là, il y a des garçons là.
Il y en a plein là-bas.
Normalement, je devais rester au cours, je suis guidée spécialement pour les Beatles.
Et la coiffure des Beatles?
C'est une perruque! Au bol de pudding, comme il dit.
Le 16 janvier 1964, les superstars anglaises se produisent à l'Olympia. Et le concert débute avec, en première partie, un Américain d'origine mexicaine, Trini Lopez.
Merci. Merci beaucoup. And viva la France! Yeah. Ooh. I am in the morning, I am in the evening, all over this land. I am around danger, am around a war. Am I by the love between my brothers and my sisters? Ah, all over this land.
On voit que Trini Lopez a l'habitude des grands nightclubs américains. Il ne manque ici que les danseurs pour répondre à certains de ses appels. Il est très entraînant, très souriant. D'une main, il joue de la guitare, de l'autre, il danse le surf, si je puis dire. À ça, il surfe. Il surfe en permanence, discrètement, sans s'épuiser, mais avec régularité. Quand on est Trini Lopez, on a une réputation à soutenir. On sent que c'est un garçon qui aime chanter et il rend cet amour communicatif.
Depuis une cabine de l'Olympia, Robert Marcy anime la soirée pour les auditeurs d'Europe numéro 1. Après Trini Lopez, il annonce une jeune chanteuse française.
C'est toujours périlleux un tour de chant un soir de première à Paris. Vraiment, Sylvie est très très mignonne. Aucun homme ici ne pourrait se déclarer contre elle. Il ne pourrait que souhaiter l'être.
Et après Sylvie Vartan, Robert Marcy annonce le clou du spectacle, les Beatles, pour la toute première fois en France.
Sur ce plateau de l'Olympia, territoire cosmopolite s'il en fut, la France, l'Amérique aujourd'hui ont régné, c'est au tour maintenant des sujets de sa gracieuse majesté. C'est toute la Grande-Bretagne adolescente qui va être représentée par les Beatles. À eux de jouer.
Merci beaucoup.
Next song. It's called She Loves You. She loves you, yeah, yeah, yeah.
Après cette soirée retransmise en direct sur Europe numéro 1, les Beatles donnent 40 autres représentations à l'Olympia, enchaînant parfois 2 à 3 shows dans la même journée. Et 5 mois après leur premier concert parisien, les Beatles donnent leur premier concert américain. Le 30 août 64, ils sont à Atlantic City. Et là-bas, ils retrouvent Europe numéro 1 et sa célèbre émission musicale. Salut les copains!
Près de 40 000 fans ont payé jusqu'à $20 la place pour assister à cette première à Atlantic City. Et il semble, d'après l'intensité des acclamations, qu'il n'ait vraiment pas été déçu. Tandis que la salle continue de s'exciter, alors que les Beatles sont déjà sortis depuis un petit moment, nous accompagnons les Beatles vers leur loge, encore un peu essoufflés. Dans quelques instants, ils vont répondre aux questions de Philippe Tallois.
Paul, est-ce que vous présentez de nouvelles chansons aux États-Unis ?
Non, seulement les chansons de notre film.
John, quand pensez-vous retourner en France ?
Nous ne savons pas pour le moment.
George, vous préférez les filles françaises ou les filles américaines ?
Toutes les filles.
Pour moi.
Ringo, est-ce que vous voudriez revenir en France ?
Ah, oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, oui.
Salut les copains, ici John.
John.
Salut les copains, ici c'est Paul McCartney.
Salut les copains, ici George.
Salut les copains, ici Ringo.
1, 2, 3, 4. Salut les copains. Salut les copains. Salut les copains, salut les copains,
salut les copains. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. It's such a feeling that my love
C'est avec ce titre, I Want to Hold Your Hand, que les Beatles deviennent pour la première fois en 1964 numéro 1 au hit parade américain.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1964.
En décembre 1964, un projet lancé par le ministre de la Culture, André Malraux, et approuvé par le général de Gaulle lui-même, voit le jour. Le transfert des cendres du résistant Jean Moulin au Panthéon. La veille de la cérémonie, des compagnons de la Libération se relaient pour veiller le cercueil. Il fait un temps glacial et Maurice Bruzek, de la rédaction d'Europe numéro 1, est à leur côté.
Au bout de l'île de la Cité, là où coule la Seine, quatre jeunes garçons nés au camp de Mauthausen viennent relever les quatre femmes, compagnons de la Libération, qui montaient la garde aux quatre coins du drapeau bleu-blanc-rouge qui enveloppe les restes de Jean Moulin. Quatre garçons qui ont l'âge de la guerre, un peu plus de 20 ans. Pour parvenir jusqu'à la petite crique, il faut descendre des marches taillé dans le granit. Et les Parisiens qui viennent rendre un hommage à Jean Moulin s'immobilisent face au cercueil recouvert d'un drapeau bleu, blanc, rouge. Les Parisiens se recueillent.
Le lendemain matin, le 19 décembre 1964, les cendres de Jean Moulin sont transférées au Panthéon.
Le cercueil de Jean Moulin, toujours porté sur la prolonge d'artillerie, arrive maintenant devant le Panthéon, alors que une fanfare militaire joue au chant. Devant le Panthéon, aux portes ouvertes, a été dressé un catafalque. Du centre du Panthéon semble sortir un arc-en-ciel tricolore. Ce sont trois projecteurs qui éclairent dans le ciel une sorte de V bleu, blanc, rouge, alors qu'un drapeau noué en haut du fronton descend en s'entourant sur une colonne pour venir draper le catafalque. Des soldats de l'artillerie descendent le cercueil maintenant, pendant que l'orchestre joue la marche funèbre de Chopin.
Des dizaines de milliers de Parisiens assistent à la cérémonie, dans un froid glacial. Le ministre de la Culture prononce alors une oraison funèbre de 21 minutes, dont le ton va marquer l'histoire.
Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
Europe 1, Ondelatte raconte.
En janvier 1964, Paris est en chantier. Et l'un des plus importants se déroule dans le 15e arrondissement, boulevard Lefèvre, qui est un long boulevard qui court de la porte de Versailles jusqu'à la porte de Vaux. Il s'agit de construire 899 logements HLM répartis dans 5 bâtiments. 4 ans que les travaux s'éternisent. Et le mercredi 15 janvier 64 à 16h, alors que des dizaines d'ouvriers sont en plein travail, on entend un immense boom. Un immeuble s'est effondré. Et à la rédaction d'Europe numéro 1, c'est l'ébullition. Bon, vas-y, Coco, hein. Tu te débrouilles, tu me trouves un témoin. T'es plus le botin de la rue, ok?
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Mais il s'est passé que nous avons entendu un bruit épouvantable. On a levé les yeux et l'immeuble s'est écroulé comme un château de cartes.
Un immeuble de combien d'étages?
Mais il y a 14 ou 15 ou 16 étages, je ne sais pas, mais c'est toute la carcasse en fer qui s'est écroulée.
D'un seul coup?
Oui, d'un seul coup. Il y a les pompiers, il y a police secours, il paraît qu'il y a énormément d'ouvriers en dessous. Dans tous les cas, ils étaient en plein travail.
C'est un immeuble en construction.
Oui, c'est affreux. Il y a un ouvrier qui est là, et il dit qu'il y a 5 équipes d'ouvriers qui travaillent dessus. Il a vu un camarade qui a sauté de 4 étages et il n'a rien. C'est cet immeuble. Il paraît qu'il y en a qui ont sauté. On a déjà retiré 2 cadavres. Ils ont retiré pas mal de blessés. Il y a une centaine de pompiers, là. Ils sont très nombreux.
5 équipes, ça fait combien d'hommes?
Ben, ils sont à peu près 16-18 par équipe.
L'immeuble qui s'est effondré était haut d'une cinquantaine de mètres. 12 étages de poutrelles et de planchers en ciment armé sont tombés en 4 secondes.
J'ai entendu seulement un grand bruit, un peu comme si c'était un camion qui déversait des tonnes de pavés, vous savez, quand les camions déversent leur chargement. Et puis ma femme s'est mise à la fenêtre et elle a dit « il n'y a plus de maison en face ».
Le reporter d'Europe numéro 1, Fred Goldstein, parvient à se hisser au plus près des équipes de secours.
Il y en a encore là-dessous, vous croyez?
Regarde sur la gauche, les chauffeurs, parce que je te mets sur la gauche, par là. Là, oui, où tu vas, mais plus dans le fond.
Alors nous avons trouvé tout de suite un pauvre gars ici qui avait le pied coupé à
hauteur de la cheville.
On n'a pas pu le dégager, d'ailleurs il n'est pas encore dégagé, il doit être mort là. Alors nous en avons entendu 2 ou 3 là au centre. Et puis nous en avons sorti un de là. Là, nous étions tout de suite, nous étions une vingtaine. Tout de suite, les gens du quartier sont venus.
Tout le monde a appelé, évidemment, la police, les pompiers.
La police et les pompiers, qui sont, ma foi, arrivés assez tôt. Quand nous sommes arrivés sur place, qu'on a entendu des plaintes, là, en dessous, et alors, nous avons soulevé les grosses dalles, et nous l'avons sorti, celui-là aussi. Enfin, il est assez bien, nous l'avons transporté par là.
Et les heures passent, et le bilan est de plus en plus lourd. On parle maintenant de 15 morts. Après minuit, la chance de retrouver des survivants est très mince. Et puis, d'un coup, les équipes de secours entendent un bruit. Incroyable! Sous les gravats, un ouvrier est vivant. Choqué, bien sûr, mais conscient.
Attention, enlevez tout ça à la main. Hein.
Pour le moment, les pompiers n'ont réussi à enlever que les blocs de béton qui se trouvent au-dessus du corps du jeune Algérien. Le jeune Algérien qui continue à discuter avec ses camarades.
Donne-moi le couteau là, donne-moi le couteau.
Je vois à bout le jeune ouvrier algérien qui est enseveli actuellement. Deux pompiers et un des camarades algériens d'Abou sont en train d'essayer de le dégager. Ils ont mis une planche au-dessus de sa tête pour éviter que les pirailles ne tombent sur lui, et soit au burin, soit à la main, soit avec des pinces à découper, ils enlèvent terre, pierre, béton et ferraille qui se trouvent autour du corps d'Abou. Je vois Abou qui est à peu près au garde-à-vous, au milieu des pirailles, et qui attend en respirant doucement, pendant qu'un de ses camarades le réconforte et lui dit « Tiens le coup, vas-y ». Un infirmier des pompiers vient de descendre pour faire une piqûre au jeune ouvrier algérien pour l'aider à tenir le coup.
Abou s'en sort. Et 10 jours plus tard, il assiste avec des milliers d'autres ouvriers du bâtiment aux obsèques de ses 15 collègues. 8 maghrébins, 2 français, 2 portugais, 1 espagnol et 1 italien. Et ce 27 janvier 1964, tous les ouvriers du bâtiment du pays sont appelés à cesser le travail pour s'associer à la cérémonie. L'effondrement de l'immeuble serait dû à un manque de rigueur dans la surveillance des travaux. Et 4 ans plus tard, 3 architectes impliqués dans l'opération sont condamnés à de la prison avec sursis et des amendes qui vont de 2000 à 20 000 francs. Autre conséquence de ce drame, les règlements de sécurité sur les chantiers seront remaniés dès janvier 1965.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
C'était les Animals avec House of the Rising Sun. Johnny reprendra cette musique dans son fameux Le Pénitencier.
1964, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Je flâne en 1964 et cette année-là, au volant, attention, on ne peut plus forcer sur le picrate à midi. Les képis ont une nouvelle arme, redoutable, pour détecter les abus. En 1964, débarque une nouveauté qui va révolutionner la vie des automobilistes français. L'alcotest. Le 5 février 64, Europe numéro 1 est en patrouille avec des gendarmes.
Dès que un automobiliste est trouvé, enfin manifestement en état d'ivresse, alors nous l'invitons à souffler dans ce petit ballon là, c'est l'alcotest.
Vous faites ce contrôle systématiquement ou bien vous ne le ferez qu'en cas d'accident par exemple?
Ah non, pour l'instant non, ce n'est pas systématique. Il faut que, par exemple, on voit des symptômes d'ivresse chez l'automobiliste. Par exemple, si on voit que la conduite est dangereuse ou à la suite d'un accident de la circulation, alors on l'invite à souffler dans le ballon.
Donc en ce moment, vous ne faites le contrôle qu'en cas manifeste de conduite en état d'ivresse?
Oui.
Ou bien en cas d'accident?
Oui, en cas d'accident.
Il n'y a pas, vous n'arrêtez pas, par exemple, les voitures sur la route?
Systématiquement, pour, non.
Vous pensez non, que ça non. Se fera?
Ah, c'est possible.
Je suppose que comme ça n'a commencé que depuis ce matin, vous n'avez pas encore eu à vous en servir.
Non, c'est un... Non, pas encore. La circulation n'est pas très dense maintenant. Et puis le matin, enfin, il n'y a pas tellement de gens qui ont bu le matin.
Il m'a semblé que j'étais dans mon droit, d'abord. Je ne croyais pas être fautif. D'autre part, je n'avais pas bu outre mesure et... je sais pourquoi je me suis soumis à l'alcotest d'une façon très bénévole. L'alcotest a révélé d'ailleurs que j'étais juste à la cote d'alarme. J'ai été surpris d'ailleurs. J'ai déjeuné avec un camarade et nous avons bu une bouteille de Bordeaux à nous deux.
Je trouve tout à fait anormal le système du ballon. Il est indiscutable qu'il faut lutter contre l'alcoolisme, il n'y a pas de problème. Mais enfin, je pense que la méthode est un petit peu trop poussée. Et je crois, et j'insiste sur le fait que nous portons atteinte à la liberté du français.
Vous préférez la prise de sang?
En cas d'accident, oui, indiscutablement. Mais l'histoire de souffler dans un ballon, d'abord, je ne sais pas si c'est tellement hygiénique que d'abord. Hein, et en plus, je vous dis, surtout le fait de se trouver par exemple sur la route et d'être arrêté par n'importe qui, pas n'importe qui, mais par un policier, et de faire souffler dans un ballon, je trouve vraiment que, je crois que vraiment le problème n'est pas là.
En mars 1964, une autre nouveauté touche les automobilistes parisiens. Pour endiguer les accidents nocturnes sur les grands boulevards, des feux clignotants sont installés au carrefour et ils sont censés ralentir les chauffards.
Monsieur, vous êtes postier. Vous êtes pour ou contre les feux clignotants au carrefour?
Oh, je suis plutôt contre, vous voyez. Il y en a qui font des imprudences avec le feu clignotant, vous voyez.
Bon, mais vous circulez à moto très souvent.
Ouais, assez souvent, oui.
Vous êtes pour ou contre les feux clignotants la nuit?
Ah, je suis contre les feux clignotants. Parce que les feux clignotants sont très dangereux et puis, raison de plus, parce que la nuit, on circule assez vite. Et beaucoup ne les respectent pas.
Monsieur, vous êtes chauffeur de taxi.
Moi, je préfère les feux clignotants. Parce que, à mon avis, ça évite les démarrages intempestifs tout le temps. Et évidemment, quand il y a des feux synchronisés, c'est intéressant. Parce qu'on ne perd pas de temps. Mais enfin, en prenant des précautions, à mon avis, je préfère les feux clignotants.
Monsieur, vous êtes chauffeur de maître. Qu'est-ce que vous préférez, les feux clignotants ou les feux tricolores fixes?
Ah, les feux clignotants, parce qu'on aperçoit mieux le mouvement que si c'est fixe, on ne l'aperçoit pas.
Monsieur l'agent, la nuit, vous préférez les feux clignotants ou les feux tricolores fixes?
Les feux tricolores fixes, parce que les automobilistes ne sont pas assez conscients quand ils sont au volant d'une voiture.
En septembre 1964, une nouvelle automobiliste française de 18 ans est toute heureuse de pouvoir profiter de son permis de conduire. Elle va pouvoir trimballer tous ses copains. Et elle s'appelle Sheila.
On l'attend assez longtemps, alors quand on l'a, on est bien content.
Combien de leçons vous aviez pris avant de passer ce permis?
J'avais pris à peu près 12 leçons.
La voiture, c'est pour quand?
Oui. Pas la voiture, c'est pour bientôt, j'espère. Mon père m'avait dit que si je réussissais mon permis, il me paierait une petite voiture, une petite 4L.
Et après la R4?
Après la R4? Ben, je sais pas, vous savez, quand j'aurai déjà conduit bien ma R4, ben, on verra, peut-être qu'on changera, mais enfin, pour le moment, je suis bien fixée là-dessus, je trouve que c'est très mignon, c'est écossais, c'est marrant. Ça s'appelle la parisienne, alors.
Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Et doua, didi, doua, didam, dididou. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Et doua, didi, doua, didam, dididou. Tous ensemble. Tous ensemble. On est bien. On est bien. Tous ensemble. On est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se
Avec ce tube de 1964, vous les copains, c'est le début du phénomène Sheila.
1964, Ondelat raconte sur Europe 1.
Je me balade en 1964. Et vous entendez là? Oui, oui, au loin, ça bug à Paname. Car c'est le début du salon de l'agriculture. Le 9 mars 1964, le concours général agricole se modernise. Il devient le premier salon international de l'agriculture. Et il se déroule à la porte de Versailles, à Paris.
Dans quelques heures, le salon de l'agriculture va ouvrir ses portes. Et c'est dans la traditionnelle symphonie des coups de scie et des coups de marteau, qui prélude à tout salon, que les bêtes arrivent pour prendre place dans leur stall, où déjà l'on a préparé leur litière. Voici justement des vaches hollandaises qui arrivent. Vous exposez ici, monsieur, combien avez-vous de bêtes?
12, vieux. 12 bêtes et 2 taureaux. Hollandaise frisonne.
Hollandaise frisonne. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez ici à Paris?
Non, la quatrième fois.
Est-ce que vous avez déjà obtenu des prix?
Oui, oui.
Quelles sont les qualités principales de la race que vous exposez?
La race de Hollandaise frisonne a beaucoup de la viande et beaucoup de lait.
Et combien donne-t-elle de litres de lait?
En 300 jours, environ 7000 jusqu'à 8000 litres.
Monsieur Charles, vous êtes commissaire à ce salon de l'agriculture et vous vous occupez plus particulièrement des animaux. Combien de bêtes vont être présentées?
Eh bien, nous avons 425 bovins, 200 chevaux, 590 ovins, 180 porcins et 50 chèvres.
Mais, monsieur Charles, quel intérêt est-ce qu'un éleveur peut bien avoir à amener ici ses bêtes à ce concours général?
L'éleveur qui présente au concours général agricole trouve un intérêt sur plusieurs plans. Tout d'abord, au point de vue émulation, puisqu'il peut comparer ses efforts de sélection avec ceux des éleveurs de la même race. Et d'autre part, il y a un plan publicité, puisque ici nous avons quand même de nombreux visiteurs, parmi lesquels se trouvent des étrangers, et ceci lui permet de trouver des acheteurs au cours de l'année.
En 1964, pour cette première édition du Salon de l'agriculture, 300 000 visiteurs se pressent porte de Versailles. Et Europe numéro 1 interviewe les vainqueurs des concours. Tiens, par exemple, celui de la plus belle vache.
Alors là, c'est la lauréate des Jerseyaises. Elle fait combien, elle produit combien de litres de lait par jour?
13 litres de moyenne, 13 litres 6.
Donc dans une année, ça représente combien de litres?
4870 kilos de lait.
Pour arriver à un résultat comme ça avec une bête aussi petite, est-ce que vous avez une alimentation particulière?
L'alimentation, ma foi, c'est le pâturage ordinaire, Mayenne qui est assez maigre, plus 10 kilos de luzerne par jour, 10 kg de choux et 3 kg de concentré.
Elle a quel âge?
Elle a 12 ans.
C'est pas tout jeune pour une bête, ça, je crois.
Pour elle, pour la jerseyaise, c'est un bon âge. On a encore sa mère qui a 14 ans.
Est-ce que c'est un fruit, un produit de l'insémination ou produit naturel, si je peux dire?
Produit naturel.
Est-ce que vous l'aviez préparé particulièrement pour ce concours agricole? Parce que ça
non.
Fait déjà plusieurs années que...
C'est la première année et on est venu là en remplacement.
C'est une bonne surprise.
Très bonne.
Qu'est-ce que c'est comme bête, ça?
Bretonne pinoire.
Et elle fait combien par jour de litres de lait?
13, voilà une bête qui a 16 ans, qui a fait 13 vélages et avec une production de 4500 par lactation, 4400-4500.
C'est étonnant pour une bête aussi petite.
Oui, c'est étonnant, mais c'est une bête exceptionnelle au point de vue rusticité. Et on peut dire que c'est un peu une championne de la race.
Qu'est-ce qu'on lui donne à manger particulièrement quand on arrive à ce résultat-là?
Elle arrive à manger évidemment du foin, comme toutes les bêtes, elle est concentrée, des betteraves et compagnie. C'est une bête qui est quand même particulièrement soignée.
À l'occasion de ce premier salon de l'agriculture, Europe numéro 1 innove en installant un studio de radio en plein cœur du salon.
Comme nous vous l'avions annoncé, nous sommes maintenant dans le studio de verre d'Europe numéro 1 à la porte de Versailles, à Paris. Fidèle à sa promesse et très courageusement, M. Pisani, ministre de l'Agriculture, est avec nous et je le remercie d'avoir accepté de venir ainsi, au milieu des agriculteurs, il y en a plusieurs centaines autour de nous, répondre à des questions que des agriculteurs nous ont adressées pour lui de toutes les régions de France. Depuis l'annonce de cette rencontre, nous avons reçu plusieurs centaines de lettres d'agriculteurs, ce qui représente près de 1500 questions. Ce sont là des chiffres qui montrent d'abord une chose, et c'est la première leçon que montre cette émission sans précédent. c'est que les agriculteurs de France ont certainement besoin d'être mieux renseignés et souvent aussi d'être rassurés. Ces questions, qui sont parfois très directes et même, monsieur le ministre, brutales, nous allons vous les poser aussi directement qu'elles nous ont été adressées. Le premier de ces grands thèmes de préoccupation des agriculteurs français, et je dirais même plus qu'une préoccupation, il s'agit là d'une véritable inquiétude, le premier grand thème qui s'impose à l'attention lorsqu'on dépouille le courrier que nous avons reçu, c'est la terre. La possibilité de disposer de cet outil de travail indispensable qu'est la terre, avant même de savoir ce qu'on fera pousser, avant de savoir quel bétail on va élever, avant de savoir à quel prix on vendra sa production, le problème, il nous a semblé, en lisant cet énorme courrier, le problème c'est de savoir si on aura de la terre à sa disposition. Voilà quelques-unes des questions. Monsieur Molitor a signé l'abbaye dans les Ardennes. Monsieur le ministre, pourquoi la terre a-t-elle doublé de valeur en 5 ans?
Je voudrais d'abord, avant de répondre aux questions précises que vous venez de me poser, vous remercier d'avoir organisé une pareille rencontre et une pareille émission. Non point que je me trouve très à mon aise, car il est toujours très difficile de répondre à une série de questions aussi précises et de le faire aussi rapidement, mais je pense que notre souci est commun aux organisations professionnelles, à vous comme à nous, d'informer les agriculteurs de leurs problèmes et des solutions que nous tentons d'y apporter. Il est normal que vous ayez placé le problème de la terre en tête de tous les problèmes. Maîtriser les phénomènes fonciers est en effet l'un des objectifs que nous nous proposons par priorité.
C'était Franck Alamo avec son titre culte « Biche, ma biche ». Comme tous les jours, je rends hommage à mes acolytes Guillaume Maury, Julien Pichenet et Guillaume Vasseau pour la réalisation. La suite de notre balade dans l'année 1964, dans le deuxième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.